RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Morgan Sanson, buteur triplé de Toffin, but de Germain, Demitroglou également. Également, Mollet a claqué un doublé, Nian a marqué pour le FC Metz, victoire 6-3.
Il devrait jouer en 9.
Mollet ?
Oui.
C'est pas moi qui dis ça.
Non, c'est le Kevin De Bruyne de Metz.
Tu l'as ou pas ?
Quoi ?
9 Mollet. Ah, il l'a pas. On était avec Jean-Luc, supporter de l'OM, avec qui nous avait appelé au 32-16. T'es là, Jean-Luc ?
Oui, je suis là.
Ça serait le pied,
ça devrait être important.
Vas-y, Jean-Luc.
Ouais, je voulais dire deux choses. Je vais vous faire rire, mais quand Mitroglou, on a vu sa photo sur le panneau, sur le grand écran, le stade, mais il a commencé à rigoler. C'est-à-dire que c'est grave, c'est-à-dire qu'on lui, même pas on le siffle, quoi. C'est-à-dire que les gens rigolent, quoi. C'est assez, c'est dramatique.
Parce c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OM, hein, avec d'autres attaquants du club. Hein,
ouais, mais jamais avec un mec qui avait coûté 15 millions d'euros. Hein. Et là, c'est assez pathétique. Et puis, je voulais dire quand même à Daniel, parce que moi j'aime beaucoup Daniel, et il est objectif. Ce qu'il dit, il n'est pas supporter, hein, il est ni contre, ni pour. Mais je voudrais lui demander quelque chose. Est-ce qu'il croit vraiment qu'on va pouvoir aller au bout ? Moi, j'espère de tout mon cœur, parce que je suis un fan de l'OM, mais qu'on va pouvoir aller au bout et continuer à dominer autant d'équipes avec dans notre effectif Zambouanguissa, Rolando, Bounassar, Sakai. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à être plus fort que 16 équipes en Ligue 1 avec des joueurs comme ça, quoi. Voilà.
Et parce que Jean-Luc, on l'a beaucoup dit, on en a pas mal parlé cette semaine, ouais. Parce que effectivement. Effectivement, tu as peut-être à Monaco et à Lyon, et encore, faut voir selon les instants, les dynamiques, les formes, effectivement, sur le papier, peut-être des mecs qui ont des noms plus ronflants. Mais au final, sur une saison, les dynamiques, un état d'esprit, une détermination, un collectif qui marche ensemble, dans l'histoire du championnat, ça a réussi souvent à faire la différence. Hein. Monaco des trois, bah, c'est là où t'as le plus de joueurs entre la moitié de l'équipe qui a fait demi-finale de Ligue des Champions, qui est championne de France.
Il y a du
entre
monde qui est
les
parti
mecs.
Quand même, hein.
Oui. Ouais, mais enfin, il t'en reste quand même.
Ouais,
il t'en reste quand même des demi-finalistes. Enfin, je veux dire des CV. On va dire des CV. Mmh. Voilà, parlons comme ça. Il t'en reste quand même beaucoup. Et des transferts, des mecs qui ont coûté du blé et tout.
Des Jovetic,
voilà,
des
bords. Quand même. Pas des moyens. Des CV, quoi. On va dire des CV. Ouais, et sur le CV, il y a aussi la valeur. Mmh. Voilà. C'est, sur le papier, plus fort que l'OM. Maintenant, je mettrai pas ma main au feu que Monaco termine devant l'OM. Après, Jean-Luc, il va y avoir la gestion des matchs du jeudi soir quand ils vont arriver avec répercussions sur le dimanche pour Marseille, la longueur du banc. Ouais, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Mais pour l'instant, en tout cas, l'OM engrange des points comme quasi jamais il n'en avait engrangé à la J24 d'un championnat. Tout est super positif, mine de rien.
T'as fait grec à l'école, toi, non, Daniel?
Ah oui.
Quoi que j'ai fait?
T'as pas étudié le grec à l'école?
Pas trop, non.
Ah, c'est dommage, parce qu'on avait Kostas Mitroglou, là, en zone mixte, là.
Ah,
mais
bah
c'était en VO. Non, ça y est, parti.
Non, mais je suis tellement allé en Grèce en vacances, j'ai des bases, hein.
Il vient de partir, c'est vrai, là. Jérôme Thomas est en train de me l'annoncer, ça a duré 15 secondes, là.
Ah, c'est con, parce que moi, je te le faisais en grec.
Je vais dire un truc, Jean-Luc, par contre, si tu perds sur blessure, suspension, Gustavo, Tovin ou Rami, ton équipe, par contre.
Ça fait beaucoup.
Non, on en revient à ce que disait Jacques Henriero au début de match. Jacques Henriero explique qu'il a la profondeur de banc nécessaire.
Ah, de toute façon, du banc et des joueurs, il en a. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des joueurs qui valent des titulaires. C'est ça le problème à l'OM. Mais si tu perds Gustavo et tu as, pendant le match, Tovin qui se blesse ou même Rami, ton équipe, c'est une équipe d'un coup de ventre mou.
Oui,
de Ligue 1.
Oui.
C'est juste ça, le problème, Jean-Luc.
Et Ali. Toi qui étais un numéro 10 qui donnait des caviars régulièrement, qu'est-ce que tu penses des appels de balles que font nos attaquants aujourd'hui? Parce que moi je trouve que quand même ils font des appels qui sont quand même très moyens et qui mettent pas les...
Germain, c'est intelligent ce qu'il fait quand même. Hein.
T'as raison Jean-Luc sur une chose, c'est que en général ils font des appels de balles, je les vois moi, mais c'est jamais à 200%.
Voilà.
Et ça c'est ce qui fait la différence pour aller jusqu'au bout.
Qu'est-ce que t'appelles à 200% Ali?
Ils réfléchissent s'ils vont avoir le ballon.
Voilà. Même Germain.
Non, Germain fait des appels de balles d'intelligent et lui il les fait à 200%.
C'est ce que j'allais dire.
Germain le fait.
Messieurs, Adil Rami est en zone mixte. On va l'écouter.
C'est
Adil Rami.
C'est un joueur intelligent.
Marseille s'est imposé 6-3, s'il vous plaît, messieurs. Marseille qui s'est imposé 6-3 sur 60. Écoutez Adil Rami, le défenseur de l'OM.
Parce que de prendre 3 buts, c'est inadmissible. Voilà, c'est bien de prendre du plaisir. Moi, en tout cas, mon plaisir à titre individuel, c'est de prendre 0 but. Et donc, défensivement, voilà, je pense que je vais passer une sale nuit. Donc.
Oh. Adil, vous avez arrêté le match avant le coup de sifflet final. Vous vous êtes dit c'est bon, c'est gagné, c'est facile.
Ouais, je sais pas. Collectivement, il va falloir poser la question un petit peu à tout le monde, mais en tout cas individuellement, moi, c'est jamais fini. Parce que mon plaisir pour moi, c'est d'encaisser zéro but. C'est pour ça que je me sens blessé, un goût de défaite. On n'a pas le droit. Je pense que c'est une faute professionnelle. Après, faut pas oublier que c'est une équipe de Metz qu'on a vu aujourd'hui, peut-être. Qui n'avaient aucune ambition de gagner, juste de marquer des buts. Ils sont venus à attaquer à 4, 5, 6. Voilà, et après, si j'ouvre les parenthèses, j'ai un petit clin d'œil à faire à l'entraîneur adverse. J'ai un petit clin d'œil à essayer de nous piquer avant le match et nous parler de son terrain ou pas son terrain. Ici, t'es à Marseille, tu rentres, tu prends pas les 3 points, point barre. C'est tout. Voilà.
En colère,
ouais, je suis énervé parce que c'était bien. On marque des buts, on colle à virage, on rattrape nos concurrents direct. Et au final, on encaisse 3 buts. Donc. Moi, à titre individuel, ça me fait mal, ça me fait chier.
Adil, voilà. C'est pas un peu... Vous avez gagné, direct, hein, vous mettez la mixte sur Monaco et Lyon. Vous marquez pas 6 buts tous les week-ends quand même.
Ouais, mais après, il y a une certaine discipline à avoir. Et je pense que ce soir, on a fait preuve de professionnalisme. Bien évidemment, il y a les 3 points, mais quand même, attention.
C'était la réaction en direct d'Adil Rami. Il est ambitieux, Rami.
Bon, c'est pas ambitieux là. Il est un peu tatillon. Je sais pas, peut-être en colère pour quelque chose. Je trouve qu'il est un peu exagéré, un peu extrême. Là.
Bah, il prend 3 buts, il est défenseur, il est pas content.
Il
y avait des espaces. Il le voit quand même qu'il y avait des espaces. Donc, il a assez d'expérience pour regrouper un peu tout le monde et dire.
C'est pour ça qu'il est pas content.
Que vous marquez.
Non, mais s'il a envie d'être perfectionniste, c'est très bien.
Mais c'est très bien. Est-ce que tu l'as vu rameuter ou juste râler? Râler est une chose sur un terrain, mais un joueur d'expérience derrière, moi je voyais Franck Dumas ou Thuram ou d'autres joueurs, ou même Eric Dimeco, il râlait pas. De suite, il faisait en sorte de vite bloquer, de ça et tout, de telle façon que tu n'es pas à des situations. Et pour ça, c'est une remise en question, mais collective et non pas d'un seul joueur. Là, que Rami soit pas content ou lève le bras parce qu'il est pas content, ça a rien changé parce que ils en ont mis deux.
On peut pas reprocher au gars de pas vouloir être perfectionniste. Voilà,
absolument. Non, mais il avait une façon de le dire qui était vraiment.
Tu dis, je suis pas content.
Il a l'impression qu'il a perdu, quoi. Il le disait lui-même. Pour moi, les 3 buts, c'est un goût de défaite.
Non, c'est pas ça. Oui. Voilà. Non. Dis plutôt, pour moi, j'ai pas fait mon boulot.
C'est ce qu'il voulait dire.
Non, il l'a pas dit.
Il a dit en tant que défenseur. Voilà, pour moi, c'est un goût de défaite.
Oui, mais il a pas dit. Un goût de défaite parce qu'on a pas fait ce qu'il.
Ouais.
On a pas fait ce qu'il fallait.
En même temps, c'est ensemble. Jean-Luc, t'en penses quoi, toi? Est-ce que pour toi, elle est en demi-teinte, cette victoire-là, comme le dit Adil Rami?
Moi, je pense comme lui, franchement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis super content parce qu'on a mis 6 buts, parce qu'on a tout le monde a marqué, tout le monde a mis 5 buts. Mais moi, je dis que pour voir tous les matchs de l'OM, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on met 6 buts, mais pour moi, c'est pas un très grand match de l'OM. J'ai vu des matchs où on a beaucoup mieux joué que ça et où on n'a pas réussi à marquer des buts. Mais franchement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Adil Rami. Moi, je comprends ce sentiment. J'ai le même sentiment à la fin du match. D'ailleurs, je t'ai dit, on marque 6 buts, c'est le top. Nous, nos joueurs, globalement, ils ont tous marqué un but, du trop lourd. Donc, c'est dire si on a été en réussite ce soir. Et malgré tout, il y a un sentiment derrière de dire, est-ce que quand même, on n'a pas des grosses failles? Et c'est vrai que je posais la question à Daniel, c'est pas innocent. Parce que moi, j'ai l'impression que cette équipe, même si on est plus fort que la plupart des équipes de Ligue 1, on a quand même de sacrées failles. Et malgré tout, ça m'inquiète.
Tu as surtout, et je l'ai dit depuis le début, je regarde, un très très bon gardien qui avait besoin de se relancer après ce qui s'est passé à Crystal Palace.
Ouais, puis il a eu un petit passage à vide à l'OM aussi. Hein.
Complètement. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Non. Et il a été très bon. Et dès qu'il se manque un petit peu, Mandanda, le match, tu le perds.
Ah ouais.
Attends, Jean-Luc, après, parfois, il faut aussi, soyons pragmatiques.
Mais par contre,
il leur reste quoi, Lyon, comme, Marseille comme gros match.
Ils doivent aller au parc,
On est au parc, on doit recevoir Lyon. On doit jouer Braga.
Monaco, c'est terminé.
Attends, Jean-Luc, calme-toi.
Un championnat.
Alors.
Un championnat.
Tu dois aller au parc.
Monaco, c'est fini.
Tu dois recevoir Lyon.
Ouais.
Et Monaco, c'est bouclé.
C'est bouclé,
Bon. quand tu sais que les matchs contre les équipes en dessous, tu les as toujours maîtrisés et gagnés.
T'as Bordeaux qui va arriver là, juste après Braga.
Ouais, mais Bordeaux, c'est pas bien.
Ouais, mais ils sont relous, Bordeaux là. C'est une autre équipe.
D'accord.
Ils sont pas bien, Bordeaux.
Voilà.
Justement, c'est peut-être
globalement, t'as déjà avalé le plus dur. Après, l'Europa League, c'est une autre. Ça n'a rien à voir. C'est une autre compétition.
C'est aller-retour.
Coupe de la Ligue, c'est terminé. Et effectivement, t'as encore
Coupe de France et Bourg, match à Bourg.
Bourg de France, c'est cette semaine.
Ouais,
c'est cette semaine. Tu feras tourner.
Ouais, t'as ta finale contre Lyon, hein, normalement.
Voilà.
Tu vas avoir
ce gros match au moment où
il faudra gagner.
Où Lyon va venir. Bon, tu vois, c'est bon quoi. Ce qui reste à l'OM saison, c'est plutôt
les gars,
tout positif.
Ils vont jouer des équipes
quoi.
Qui jouent le maintien. Il y a rien de plus relou en fin de saison que de jouer des équipes qui jouent le maintien.
Pour l'instant. Non mais attends Nico, si t'as le choix entre une équipe qui joue le maintien ou jouer trois fois contre Lyon et deux fois Monaco, tu prends quoi?
Le problème c'est que tu peux pas jouer trois fois contre Lyon.
Bon,
et Monaco,
alors donc, voilà, il vaut quand même mieux.
Je préfère jouer des mecs qui sont ventre mou.
Il faut quand même mieux jouer contre les équipes moins fortes parce que de toute façon Marseille les négocie bien ces matchs-là.
Ceux qui sont ventre mou, ils sont relâchés. Ils sont
après,
bien.
Voilà.
Alors que ceux qui jouent le maintien, ils ont peur.
Non, mais c'est pas des si. C'est que c'est plus simple de jouer une équipe qui est moins forte que toi. Et Marseille, pour l'instant, les a tout le temps bien négociés.
Merci Jean-Luc qui nous a appelé au 32-16. Bonne soirée Jean-Luc. À bientôt.
Salut les gars.
Ciao. Jean-Luc, on va accueillir Alex, autre supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Salut Alex.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Alex.
Il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live, Alex, sur la sortie d'Adil Rami. Il y a Lucho qui nous dit « Adil Rami sur RMC, les chauds bouillants, faute professionnelle concernant la performance défensive de l'OM, puis petit tac sur l'entraîneur adverse et les trois points pour se rattraper. »
Mais moi j'ai raté, il dit quoi, Hans?
J'ai pas vu la sortie non plus, mais visiblement il était énervé. T'en as pensé quoi, Alex, toi, de la prestation de l'OM ce soir?
Moi, c'est pareil, je suis en demi-teinte quand même. Ouais, c'est bien, on marque 6 buts, donc ça prouve aussi qu'on commence à avoir une efficacité offensive de plus en plus importante, et ça va être très très important pour la suite du championnat pour pouvoir espérer accrocher ce podium. Mais après, voilà, c'est quand même Metz en face, c'est pas non plus, t'as pas non plus des grands joueurs en face, et t'arrives à prendre 3 buts, quoi. Voilà, donc 3 buts sur les 20 dernières minutes.
Ouais, oui, mais les 3, il faut voir, tu les prends déjà contre une équipe qui joue vraiment, t'es un peu relâché,
tu vois. Ah, mais t'as pas le droit, Daniel.
T'as pas le droit sur un match de championnat où t'es déjà à 6-1, tu peux. Est-ce que c'est grave de se relâcher?
Non, c'est pas grave.
Je trouve pas, moi.
Non, c'est pas grave. Mais tu en prends un. Quand ils ont ce but-là, déjà, ils sont un peu agacés parce qu'ils voulaient rester en clean sheet. Et pour qu'une défense comme Marseille qui se dit, je vais chercher cette deuxième place, Daniel, ces fameux clean sheets vont t'aider sur les prochains matchs où tu vas gagner 1-0. Et là, le fait de se relâcher, bien sûr, tu te relâches quand c'est 4-1 ou 5-1. Donc ça te met une certaine marge. Mais ça va te rester un petit peu. Et ça démontre qu'à ce niveau-là, cette défense, il faut que les fasses attention. Mais en plus, c'est pas ça. C'est que Mandanda fait un gros match. Je parle pas que de la fin, Daniel. C'est que dès le début de match, il te fait un gros match. Mandanda à domicile, pas à l'extérieur.
J'ai vu tout ça, mais par contre, j'ai envie de retenir le côté positif de l'efficacité offensive des joueurs, que j'ai trouvé bons.
Et puis des beaux buts. Des bonnes actions offensives.
Ouais, vraiment.
Après, faut pas en faire non plus une affaire d'État. Voilà,
écoute, c'est un point de vue. Qu'est-ce que tu préfères, difficile. Alex? Tu préfères le 6-3 ou si t'avais gagné en clean sheet 2-0?
Je préfère le 6-3.
Moi aussi, je préfère le 6-3.
Je voulais revenir aussi sur la prestation 5XL de Florian Thauvin, parce que voilà, aujourd'hui, on va passer.
Tiens, on va l'écouter. Il est en direct en zone mixte, Alex. Je te coupe. On va écouter Florian Thauvin, réaction en direct de l'attaquant de l'OM.
Je suis mitigé ce soir parce que je suis à la fois content mais à la fois déçu d'avoir encaissé ces 3 buts. Ça aurait été mieux qu'on n'en encaisse pas du tout, donc forcément on est tous un peu déçus ce soir et c'était pas la joie dans le vestiaire à la fin du match.
Ce soir, victoire de l'OM 6-3 face à Metz.
On sait que vous avez du retard à la trêve, là vous l'avez en partie retrouvé, mais bon, ces 3 buts, c'est bon.
Oui, ça aurait pu être beaucoup mieux ce soir. On avait réussi à marquer 6 buts, donc ça aurait vraiment été mieux pour le goal average de ne pas en encaisser, et c'est vrai que ça peut compter à la fin de saison, donc je vous avoue que ce soir c'est aussi pour ça qu'on est un peu énervé.
Vous avez arrêté de mitiger, mais il y a aussi une part de positif.
Et la réaction de Florian Thauvin,
sérieusement, on va dire.
Bien évidemment, ce soir la soirée est plus que positive parce qu'on est deuxième au classement. on va regarder le match dimanche soir tranquillement, mais on est quand même déçu. Après, c'est vrai que personnellement, je suis content ce soir, mais j'aurais pu être encore plus heureux.
Le match de dimanche soir, ce sera Monaco-Lyon à 21h. Florian Thauvin en direct dans l'after, en zone mixte.
Oui, c'est vrai que ça a une autre saveur aujourd'hui parce que c'est à domicile devant nos supporters. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il y ait tous les supporters au stade et qu'il n'y ait pas les tribunes vides ce soir, mais c'est comme ça. Je suis quand même très content et je tiens vraiment à remercier mes coéquipiers ce soir parce que j'ai eu des super ballons, j'ai marqué mes 3 buts en une touche, donc c'est grâce à eux ce soir.
Il a tenté un triplé ce soir, Florian Thauvin. L'OM s'est imposé 6-3 face au FC Metz. Et vous êtes dans l'after avec Daniel Riolo et avec Ali Benarbia et avec Alex qui nous a appelé au 32-16. Comme a dit le Rami, il est en mode perfectionniste, Florian Thauvin.
Tant mieux.
T'es toujours là, Alex?
Ouais, je suis toujours là. Ouais, après c'est vrai, voilà, après on va pas en faire non plus une affaire d'état, voilà, ce soir on gagne 6-3, mais 6 buts à domicile, c'est pas tous les week-ends qu'on en passera 6 à domicile, voilà. Aujourd'hui, il faut se contenter de ce qu'on a pris. Voilà, je pense qu'on fait quand même une saison je pense que tous ceux qui sont autour de votre table de ce soir nous auraient peut-être pas vu là il y a 5-6 mois.
C'est vrai. Et ça fait combien de temps que t'as pas vécu depuis combien de temps t'as pas vécu une saison comme ça?
Ça fait longtemps, après...
Et même mieux, je vais te dire, sur les... On est en 2018, en 2010, donc vous êtes champion, 8 ans, sur les 8 dernières années, combien de belles saisons comme ça t'as vécu?
Très peu.
Celle de Bielsa?
Ouais, celle de Bielsa.
Il y a une autre où vous faites deuxième, mais avec Eli Bope et je crois que beaucoup de gens se sont fait chier cette année-là.
C'est vraiment pas top. Voilà.
Donc en gros, on va être dans la meilleure saison depuis celle du titre.
Ah mais c'est sûr, c'est la meilleure saison. Et puis après voilà, sincèrement, moi je suis pas un grand fan de Rudy Garcia, mais aujourd'hui on peut que constater que tous les choix qu'il a fait. Ouais, certes, il a eu aussi la pression des supporters après les 2 défaites contre Monaco et contre Rennes à la maison 3-1. Mais après voilà, il a changé son système et aujourd'hui.
Exactement. Et moi je me suis trompé qu'il ne le ferait pas, qu'il serait têtu là-dessus. Et ben il l'a pas été et c'est à mettre à son crédit. Il a changé effectivement.
Il a fait choix des hommes aussi.
Il a fait choix des hommes et il a fait choix de.
Pouvait être
choix de système de jeu et c'est très bien d'avoir fait.
Il aurait pu être obligé de faire jouer Abdenou, il a gardé Rolando.
Parce que c'est un gars qui était figé dans son 4-3-3.
Il était figé.
4-3-3, mort. Et moi je pensais qu'il va pas changer.
Sachez, parce que rien n'échappe à Jérôme Thomas, qu'en zone mixte, Florian Thauvin a aussi rajouté que Rudy Garcia était très énervé à l'issue du match. Il n'a pas voulu déclarer ce qu'il avait dit et que Florian Thauvin a aussi déclaré qu'il était très content du niveau de jeu de Payet ce soir. Voilà. Je sais pas si c'est votre avis aussi.
Mais qui a dit ça?
Florian Thauvin.
C'est Thauvin.
Voilà, Thauvin a dit qu'il était content du niveau de jeu de Payet.
Oui, il avait
Rudy Garcia.
Non,
Thauvin. Ah, d'accord. Oui. Voilà.
Ah, c'est bien. Si je peux glisser un petit commentaire, c'est possible, juste 20 dernières secondes.
Ben, on t'écoute, Alex.
Vas-y,
voilà,
Alex.
Moi, je veux juste qu'on arrête avec la répression, les décisions, à 24 heures. Moins de 24 heures des matchs, je trouve ça aberrant. Voilà, il y en avait déjà qui étaient en route. On sait que l'OM, c'est quand même un des clubs les plus aimés en France. Voilà, il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, même ceux qui sont sur Marseille, même ceux qui sont sur place. Voilà. Aujourd'hui, c'est aberrant de prendre des décisions comme ça, mais voilà, tout le monde essaye de mettre toujours des décisions comme ça pour les supporters.
Je l'ai dit moi tout à l'heure, Alex. Je l'ai dit moi.
Criminel. Voilà, liberté pour les ultras et surtout voilà, il faut pas lâcher et montrer qu'on sera toujours derrière notre club malgré la répression abusive comme on a pu subir encore ce soir avec cette décision prise à moins de 24 heures de la rencontre.
Entièrement d'accord avec toi, Alex.
Alex.
Oui.
J'ai un cadeau pour toi, Alex. Tu vas pas raccrocher, on va te filer 2 places de cinéma, mon pote. T'es allé voir Horse Soldiers ou pas? Les soldats qui font du cheval ou les chevaux soldats, j'en sais rien.
Qui voulait t'offrir un fumigène.
Christophe Lupier me dit, genre, Thomas, c'est bon ça.
Un ou deux fumigènes.
Tu l'as vu ou pas?
Non, du tout.
Et tu vas aller le voir, mon gars, alors. C'est cadeau de l'after. C'est cadeau de l'after. Ouais, t'as l'air content, beaucoup. Ça fait plaisir. Sinon, ouais. On le garde, on les fait avec quelqu'un d'autre, mon gars.
Non, mais merci beaucoup, c'est gentil.
Bon. Bonne soirée, merci Alex de nous avoir appelé.
Ciao, Alex.
À très bientôt, salut Alex. Accueillons Stéphane, notre supporter de l'OM qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Stéphane.
Salut l'after.
Salut Stéphane.
Alors, est-ce que t'es comme Adil Rami, très colère, comme Florian Thauvin, mitigé après la victoire de l'OM 6-3 ce soir face au FC Metz ou pas?
Tu sais quoi, j'ai été au stade avec ma petite. Et elle a 8 ans et on s'est régalé. On a vu des buts. Alors effectivement, oui, on a vu 3 buts messins. Mon Dieu, oh putain, le drame. On a vu 3 buts des messins. Bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au début de ce que je disais au standard tout à l'heure, au début de la saison, on passait pour des kiffs. Ce soir, on est deuxième du championnat avec les mêmes kiffs que le début des saisons, parce que Gustavo, c'est pas devenu Messi. Germain, c'est pas devenu Suarez. On n'a pas Neymar, on n'a pas tout ça. Voilà, on a ce qu'on a. Et on est deuxième avec ce qu'on a. Voilà. Je sais pas, soyons contents, quoi.
Bah, c'est ce que moi, j'arrête pas de dire. C'est ce que j'arrête pas de dire, Stéphane, moi.
Alors,
moi, je veux bien. Moi, je comprends très bien le discours perfectionniste. J'ai rien contre.
C'est bien.
Moi, j'aime l'exigence.
Des joueurs,
je suis pas
contre,
mais ce soir, tu peux quand même être content et dire, oh, les gars, putain, on a déconné à prendre 3 buts.
Ah, mais quand t'es entraîneur, tu dois être énervé.
Tu peux sourire, merde.
Tu prends 3 buts, voilà, notamment 2 en fin de match.
Je préfère gagner, moi, sur le terrain. Je préfère gagner 6-3.
Je vais vous dire franchement.
Moi aussi.
Je préfère qu'on prenne un rappel de 3 buts contre Metz. Plutôt qu'on se fasse saquer par Lyon 3-0 au Vélodrome, qu'on s'en prenne 4 au Parc des Princes. Mm-hmm. Là, c'est une piqûre de rappel. Garcia, il va serrer tout le monde dans le vestiaire, il va mettre quelques coups de tronche bien senti à droite à gauche. Et puis voilà. Mm-hmm. Et puis voilà, ça va repartir comme il faut. Franchement, je préfère qu'on fasse 6-3 ce soir, parce qu'on aurait fait 6-0, tout le monde nous voyait partir au cul du PSG pour aller jouer le titre, et vas-y, c'était parti parce que c'est l'OM. Là, avec 6-3, Eh ben, on est à notre place, on a pris 3 buts, on sait qu'on a une défense qui n'est pas la meilleure du championnat, mais on a marqué 6 buts. Donc quand on ne marque pas, on se fait taper dessus quand on ne marque pas, et quand on marque des buts, on vient nous-mêmes se flageller parce qu'on a pris 3 buts. Bon, ben, c'est bien, mais...
Moi, je suis d'accord, Stéphane, je comprends ton discours.
Mais par contre, Stéphane, c'est pas parce que l'OM aurait gagné 6-0 qu'ils étaient derrière le cul du PSG, mais surtout pour... s'écarter de Lyon et Monaco, ça va être ça le championnat de l'OM, c'est pas le PSG.
On s'est écarté ce soir, on a 4 points d'avance sur Monaco. Qui aurait dit qu'on avait 4 points d'avance sur
vrai,
Monaco
ce soir. Quoi qu'il arrive, ils sont podium à l'issue de cette journée.
Voilà.
Le Monaco-Lyon, bon, ça peut, il y a quand même des chances que ça fasse aider, match nul. Donc oui. ça peut mm-hmm. filer un coup de main. Et s'il y a un vainqueur, ça aidera aussi. Mm-hmm. Sur une journée où t'as Lyon et Monaco qui se rencontrent, toi tu mets une petite tôle, tu prends tes 3 buts. Mm-hmm. Après, encore une fois, s'ils veulent être exigeants, si Garcia veut s'énerver pour les 3 buts, si Rami est pas content, pas de problème. Mm-hmm. C'est leur choix. Mais il y a quand même beaucoup plus de positif dans tout ce que fait l'OM en ce moment.
Je vous regarde à la télé, là, je vois qu'on a une différence de plus 26 et Lyon plus 23. Ouais. On est même passé devant Lyon à la différence de but.
Bah, t'as la deuxième meilleure défense de Ligue 1 ce soir.
Ils sont à plus 27, Lyon, je crois.
Je sais pas, sur votre classement à la télé,
non,
là,
c'est pas là. Lyon, ils sont à plus 27 et Monaco plus 29.
On revient à un but, c'est déjà bien, on revient de loin,
c'est déjà une très bonne chose.
Mais c'est clair, je veux dire, ce soir, enfin, on a une soirée.
On est quand le Marseille-Lyon?
C'est tout bénef. Je sais pas,
il est le 7 mars.
Ah, ça va bien.
Le 18 mars, exactement, même, c'est le 18 mars.
Arrête pas de changer.
C'est le week-end du 17.
Tu veux changer encore la date ou pas?
Vas-y.
On est parti du 16, 18, 17, 18.
Ouais, 18 mars, c'est bien,
le décès sera le dimanche, donc.
18 mars.
Oui, oui. Et alors? C'est le week-end du 17, quoi.
Ah.
ça passe.
C'est avant ou après?
Merci Stéphane de nous avoir appelé. Ce sera le gros choc. Bonne soirée, Stéphane.
Le dernier, bientôt. D'ailleurs.
Merci, bonne soirée.
Ciao. Il n'y en aura pas d'autres après.
Il y a un match contre Nice à domicile, à 3 journées de la fin, pour les Marseillais aussi.
Ouais.
Voilà.
Bah après, les Marseillais pourront profiter de. Monaco doit aller au parc. Après les PSG Lyon, c'est terminé, ça s'est bouclé.
Mais après, non, ce qu'on va voir surtout, Daniel, c'est après cet OM-là, voir Lyon, ces fameux matchs jeudi-dimanche, quoi. Ça va être juste. Mais il n'y a plus de poule, quoi.
Alors que Monaco n'a plus rien.
Alors le FC Metz a perdu.
Non, c'est loin d'être fini encore.
Les Messins qui restaient sur une victoire 2-1 face à Nice, ils resteront dans la zone rouge.
Oh, ils doivent être content,
cette journée, les Messins. Voyons ce qu'en pensent les supporters du Graouli. Maël nous a appelé au 32-16. Salut Maël.
Ouais, salut Nico, salut Prince, salut.
Salut
Vicomte Daniel, c'est ça maintenant?
Pourquoi Vicomte d'ailleurs?
Je sais pas, j'aime bien ce titre.
Je crois que c'est André Villas-Boas qui est Vicomte.
Ouais.
Pour de vrai.
C'est vrai, il est Vicomte.
Alors Maël!
Parce qu'après, tu vois, ça veut dire que t'es en dessous du comte, t'es en dessous du prince. Il y a mieux que Vicomte.
Le prince est en haut.
C'est sûr. Ouais. Le roi au-dessus.
On continue. Ouais.
Donc Vicomte, c'est vraiment parce que l'appellation.
Il y a l'empereur quand même aussi.
Parce que sinon.
Il y a l'empereur.
Ah, mais ça, c'est différent. C'est pas le même genre de régime.
Daniel, il n'y a pas de roi. Je suis dans une principauté.
Ah oui.
On écoute Valère Germain. Voilà, lui qui a bien connu la principauté.
Ah oui.
Voilà, on manque encore un peu peut-être d'expérience. si ça nous sert de leçon qu'on refait pas les mêmes erreurs, c'est tant mieux. Et voilà, quoi, on a pris quand même 3 points, donc c'est bien.
Alors, est-ce qu'il est en mode perfectionniste aussi, Valère Germain? Marseille s'est imposé 6-3 face à Metz ce soir.
Ouais, peut-être qu'on est tombé un peu dans la facilité. Peut-être qu'on a voulu surjouer un peu, faire des trucs qu'on n'est pas forcément capable de faire, faire plus ce que notre rôle nous impose de faire sur le terrain. Et après, il y a quand même une belle équipe de Metz, il faut le souligner, qui, même si elle est au fond du classement, a quand même de bons joueurs. Ils méritaient même de marquer davantage. Donc voilà, c'est peut-être justement ce manque d'expérience qui nous a fait nous relâcher. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même... on est deuxième avec le Lyon avant cette journée à la différence de but, donc ça peut coûter cher à la fin du championnat, même s'il reste beaucoup de matchs, donc faut éviter ce genre d'erreur dans le futur.
Vous envoyez un signal ce soir ou pas avant le choc de dimanche entre Monaco et Lyon?
Ce qui est sûr, c'est que soit on est deuxième. Après, est-ce que c'est un signal envoyé, je sais pas, mais c'est sûr qu'on regardera ce match tranquillement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera dans ce match, ce sera une bonne opération pour nous ce week-end, parce qu'il y aura un partage de points ou une équipe qui perdra des points. Donc on a fait le boulot, même si on aurait aimé le faire un peu mieux, mais voilà, je pense que ça va être une belle journée pour nous.
Voilà, c'était la réaction en direct de Valère Germain. Marseille s'est imposé 6-3 face au FC Metz. On sera avec Maël dans quelques instants, juste le temps de vous rappeler que vendredi prochain, c'est le début des Jeux Olympiques de Pyeongchang sur RMC. Toutes les épreuves et toutes les médailles seront à suivre sur RMC avec notre Dream Team d'exception, Nathalie Péchala, Marie Marchand Harvier, Sandrine Bailly, Jean-Luc Crétier, Sébastien Amier. Ne ratez pas les débuts des JO vendredi sur RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018. Et l'équipe de France olympique, l'after arrive, revient même dans quelques instants.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Ali Benarbia et vous sur le hashtag RMC Live, bien entendu, vous êtes dans l'after. On vous le disait tout à l'heure, vendredi prochain, c'est le début des Jeux Olympiques 2018, Pyeongchang sur RMC. C'est également la rentrée 2018 des équipes de France. Alors équipe avec un S, équipe de France de rugby et de tennis, ce sera sur RMC. En tennis, les hommes de Yannick Noah sont à égalité un partout avec les Pays-Bas après la défaite de Manarino et la victoire de Gasquet. Le double à suivre à partir de 14h demain sur RMC. Et le rugby, ce sera demain aussi. Le premier match du 15 de France dans le tournoi Destination face à l'Irlande, ce sera 17h45 avec un débat à ne pas manquer dans les GG du sport. Une victoire face à l'Irlande relèverait-elle d'un miracle? Rendez-vous demain matin dès 10h sur RMC. Retour à la victoire de l'OM ce soir, 6-3 face au FC Metz. Comment ils l'ont vécu cette défaite les Messins? On était avec Maël, supporter des Grenats, qui nous a appelé au 32-16. Maël?
Ouais, bah écoute, tout le monde. Ouais, bah match, ouais, bah écoute, une grosse défaite quand même. Après, j'ai envie de te dire que, comme tout le monde nous donnait déjà perdant là-bas, autant y aller avec nos armes, essayer de faire quelque chose. Au final, bon, c'est vrai qu'on a fait un début de match, mais catastrophique. Erreur d'inattention, des distances de marquage qui étaient mais hallucinantes. Donc voilà, on commence très très mal le match. Et puis voilà, bah, quand on commence à avoir un temps fort, bam, on se prend le but, le troisième qui nous achève, quoi. Mmh. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la réaction de l'équipe. Que dire? Moi, je suis content qu'on en ait mis 3 quand même, parce qu'on serait pris une grosse, grosse valise, ça aurait fait mal dans la tête. Là, on arrive quand même à en planter 3, à pas être totalement ridicule non plus. Enfin, ça, c'est
si
mon
vous
avis.
Continuez à bien jouer comme ça et qu'à l'arrivée vous vous en sortez pas, il va y avoir des regrets sur toute la première partie de saison quand même.
Au début. Ah mais ça tu sais, dur, hein. Supporter, on les a déjà les regrets, hein, parce que quand tu vois comment l'équipe tourne en ce moment, au niveau du jeu et tout ça, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec le début de saison, effectivement. Hein.
Mais ça fait toujours 6 points de retard sur la place de barragiste, hein, pour le FCMS.
Ah, c'est pour ça. En fait, je voulais dire juste un truc, c'est que regarde, là, on avait 3 matchs qui étaient super compliqués, Monaco, Nice et puis Marseille. Et puis au final, on s'en sort avec 3 points sur ces 3 matchs-là.
Donc ça, c'est plutôt positif.
Mais ça fait sur 3 matchs 3 points
et 3 points sur et donc une moyenne d'un point par match et ça fait le truc de relégable, quoi. Malheureusement.
Ouais, voilà.
Après, c'est des gros matchs. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est si tu compenses ça par un 6 points sur les 3 prochains. Bah regarde, là ce sera
regarde les 5 prochains matchs, les 5 prochains matchs du FC Metz, deux matchs à domicile. Alors il y a un match de Coupe de France, c'est face à Caen, on le met de côté. Ensuite, il y a Montpellier qui vient, deux déplacements ensuite à 3 et à Guingamp et ensuite un déplacement à Toulouse.
C'est important.
Voilà. Et après il y aura un match au Parc, mais ça c'est beaucoup
plus. Si tu gagnes ces 4 matchs, c'est beaucoup mieux, oui.
Justement, il y a quelques temps là, j'avais déjà appelé, j'avais fait des petits calculs, j'avais sorti ma calculette et tout. Et j'avais calculé qu'on devait être sur un rythme de 1,3 points, 1,30 points en fait, pour 33 exactement, pour arriver à peu près à la barre des 38 points pour avoir la place de barragiste. C'est à peu près la moyenne que j'avais calculée là sur les 15 dernières saisons. Donc voilà, c'est vrai que après quand tu rapportes ça au championnat de l'année dernière, ça fait Nantes 7e, un petit peu derrière. Voilà. Donc après c'est possible, hein. Ça reste possible. Nous, tout ce qu'il faut là, c'est qu'on arrive à taper les équipes qui sont à notre portée, quoi.
Ah bah les prochains matchs que vient de dénoncer Nico là, c'est sûr que là sur ces 4 là, t'en gagnes 2, c'est bien déjà.
Hein. Surtout quand tu joues le maintien, Maël, ce qui est important, c'est pour une équipe hein, qui joue le maintien pour psychologiquement, c'est quand elle gagne à domicile. C'est ça qui l'aide énormément. Donc c'est pour ça que tu perds au Vélodrome, c'est pas important. Mais par contre, ces 3 buts à la fin vont te faire du bien pour le prochain match à domicile. C'est ça qui est important parce que
oui, c'est sûr que ça va leur
faire. S'ils seraient rentrés à 6-0, ils auraient pas eu d'occasion. Et ils savent qu'ils ont le prochain match, ils vont encore jouer avec ces 6 buts derrière la tête, alors que ces 3 buts vont leur faire du bien pour leur prochain match à domicile. Et une équipe souvent se sauve quand elle gagne ses matchs à domicile. C'est ce qui va lui permettre de se sauver.
Ouais, et puis c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et la réflexion que tu viens de faire, c'est exactement ce que je me disais à 5-0. Je me disais, pourvu qu'on en mette un, au moins un, quoi.
Et ça aide.
Et pour justement avoir le sentiment de pas non plus être passé complètement à travers, parce que les 15 premières minutes, elles sont horribles. Hein. Même moi, là, j'étais en train de regarder le match, je me disais, aïe, 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 c'est mal parti. Au final, voilà quoi, on en sort quand même un peu plus un petit peu de positif quand même de ce match.
Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'on sent que dans cette équipe, il y a des ressources du début à la mi-temps.
Il est pas mal le petit volet là, qui a un doublé. Hein.
Ah, j'aime beaucoup.
Toi, tu comparais à De Bruyne, toi.
Ouais, un petit peu le De Bruyne de Metz. Hein.
Tu disais le De Bruyne de Metz.
Parce qu'il est juste pour la couleur des cheveux.
Non, il a le physique et il frappe des deux pieds. Ouais, il marque des buts. Ouais. Bah, il a frappé 3 fois. Il a mis quand même 2 buts dans le pied gauche. On s'attendait pas.
C'est toujours mieux si t'as un pied au bout du mollet.
Ah ben ça, il vaut mieux. Bah, il a 2 mollets en plus, tu te rends compte?
Surtout quand c'est Messin. Tu l'as ou pas?
Non.
Messin. Autre partie du corps, puisqu'on est dans la métaphore anatomique.
Comme ça,
bon, merci de nous avoir appelé, Maël, en tout cas.
Ça reste le corps, la main, les pieds.
Hein?
Il n'y a pas de sein.
Mais tout le monde a des seins.
Oui. Non, mais il voulait dire.
Et par contre, les gars, je peux juste encore en placer une?
Ouais, bah oui, Maël.
Ouais, c'était pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Daniel, par rapport à l'émission de l'année dernière, là. Moi, je voulais juste, tu regarderas, je t'ai tweeté en réponse et tout. Voilà, moi, je voulais juste te dire que t'avais un petit peu été maladroit, c'est tout, point barre. Mais après, t'as le droit de pas faire plus attention que ça à notre bataille pour le maintien. Moi, voilà, tout ce que je voulais te dire, c'est que, voilà, nous, quand on retrouvera notre standing, au moins, on aura la fierté de dire que, voilà, on laisse plus personne indifférent.
Mais, non, mais c'était, enfin.
Non, mais je comprends bien. Je m'en fous, ils le vivent comme
ça. Non, je pense que c'est la question.
Le problème, c'est que la façon dont après, c'est tout le temps pris, c'est, il n'y a pas ce qu'il y a derrière. Derrière, j'ai dit, en fait, je n'y suis pas encore intéressé. Avec Jean-Louis, il disait, il y avait Pierre qui lui avait plus vu et a dit non, mais la façon dont il joue et tout. Donc tant mieux si Pierre en parle parce que lui, il savait. Moi, que j'aille dire quelque chose sur ils appellent ça la grenade, là, je sais plus le dire. Voilà, parler d'un truc que je maîtrise pas, c'est pour ça que je dis ça m'intéresse pas d'en parler, je m'en fous. Et il y avait également l'autre dimension, c'est. Tu sais, c'est toujours ces trucs-là, là, quand on se met à faire des gros plans sur l'exploit d'une équipe qui fait un truc et tout. Mais dans ces cas-là, dans le bas, je trouve que c'est un peu désobligeant pour les autres, tu vois. Parce que c'est le dernier, l'Angevin, le Toulousain, il va dire,
c'est que t'es pas obligé d'en foutre. Tu peux dire, voilà, je sais pas, je m'intéresse pas, j'ai rien,
sa réponse.
Je m'y étais pas encore intéressé,
c'est tout.
Non, mais c'est la façon que Daniel a de dire que c'était dit de façon maladroite.
Oui, voilà, c'est ça. c'est ça que je veux dire.
Mais par contre, sais, ouais, c'est voilà, compliqué. Je vais te dire, on s'intéresse à mille trucs, les championnats à l'étranger et machin. Et oui, oui, effectivement, je ne me suis pas intéressé à Metz. Voilà.
Non, alors mais
après,
façon,
après
voilà,
je pourrais bien te, après, je pourrais bien te tirer le cul en te disant que j'ai passé j'ai vu des matchs formidables à Saint-Symphorien, que c'est une ville que j'adore, que je connais très bien. Tu vois, je pourrais te faire plein de compliments sur ta ville, mais voilà, stop.
De toute façon, tu peux y aller.
Mais ça sert à rien, quoi. Voilà.
Le mot de la fin,
en plus, je peux plus y aller maintenant.
Le mot de la fin,
Daniel, juste pour conclure le truc, moi je sais que voilà, je suis auditeur de l'After depuis des années maintenant, et je sais très bien que vous intéressez à des belles histoires comme ça, comme Leicester,
comme
Toulouse qui se sauve et tout. Donc moi je vous fais confiance, y a pas de souci. Voilà, je sais que t'as été maladroit, point barre, voilà.
Ouais,
je pense au nom de tous les supporters
Messins. Carton jaune, carton rouge, là,
jaune.
Comme il dit Roland,
jaune, on appelle le club parce qu'ils veulent plus ouvrir les portes, là, putain.
Non, mais je tenais à donner mon opinion, c'est tout. Voilà.
Et bah, c'est fait, Maël. Merci de nous avoir appelé. À bientôt, Maël.
Bravo, merci, bonne soirée.
Et belle fin de
soirée. Bonne soirée, ciao, ciao.
À très bientôt. Et nous, dans quelques instants, on va s'intéresser à la suite de cette 24e journée de Ligue 1. Demain à 17h, Lille-Paris-Saint-Germain. Lille est 17e. Un point d'avance sur la place de barragiste. Êtes-vous toujours inquiet pour le LOSC? Galtier a débarqué, est arrivé plutôt, il y a quasiment un mois, jour pour jour. On fera le point sur la situation sportive et économique dans quelques instants. Avec Jean Baumel, on vous attend 32-16, avec Ali Benarbia et avec Daniel Riolo. Et sur l'hashtag RMC Live, bien entendu aussi.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo et Ali Benarbia avec vous sur l'hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. Ce soir, Marseille s'est imposé 6-3 face au FC Metz avec notamment un triplé de Florian Thauvin. Marseille qui est deuxième au moment où on se parle, Daniel. Tu sais, ça faisait longtemps que je l'aime bien. Marseille qui a 3 points d'avance sur Lyon, qui a 4 points d'avance sur l'AS Monaco. Et il y a quoi dimanche à partir de 20h sur RMC? Il y a le match entre Monaco et Lyon, bien entendu. On va se projeter sur l'une des affiches de demain, 17h, Lille. Paris Saint-Germain, Lille est 17e, un point d'avance sur 3 qui est barragiste. Le LOSC a procédé à pas mal de remaniements en interne ces derniers temps. Galtier est arrivé il y a un mois quasi jour pour jour. Êtes-vous toujours inquiet pour le LOSC? On attend vos appels au 32-16 et vos avis sur le hashtag RMC Live. On va faire le point sur la situation avec Jean Baumel qui est avec nous. Salut Jibo.
Salut Nico, salut Daniel, salut Ali. Bonsoir à tous.
Comment il va Jibo?
Bah écoute, il va mieux que LOSC et que l'ensemble des clubs qui sont dans ma région, parce que c'est pas très brillant quand même, globalement.
Alors on va se faire ça dans l'ordre, on va commencer par
la
situation.
À l'époque tu marchais sur l'eau,
ouais,
2009-2010, tu bossais, tu respirais même plus.
Ah mais là je suis que dans le noir.
Tu t'en souviens de cette période? Boulogne, Valenciennes, Lille, Lens, mais t'arrêtais pas quoi.
C'était magnifique.
Tu vivais dans ta bagnole.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça va pas trop? On t'a vu même
les bagarres avec les migrants. Elle est mise, ceux qui se portent le mieux.
Ali, non.
Ceux qui se portent le mieux, c'est Amiens. Parce qu'au final, on les attendait peut-être au niveau de Metz.
Ouais, mais Amiens, c'est ta zone encore, Amiens?
Oui, ah oui, bah je fais tous les matchs. J'y vais demain d'ailleurs.
T'es quoi? T'es à 2h là en bagnole?
Une heure et demie, ouais.
On a un peu élargi ta zone pour que tu continues.
Exactement, exactement. J'ai perdu ce dent. J'ai perdu Boulogne. Bref, allez, passons à autre chose.
Et dis-moi, et si Lille descende?
Ah bah là, c'est dépôt de bilan, mon ami. Là, c'est National 2.
T'as, c'est cool, ça t'aurait fait un beau derby avec Lens. Mais...
Ah oui, non, mais c'est un peu le rêve des supporters lensois.
Bah,
si ça descend en Ligue 2, c'est pas possible.
D'ailleurs, c'est
d'ailleurs l'un des éléments importants du sujet qu'on va aborder avec l'arrivée de Christophe Galtier, parce que c'est vrai qu'on imaginait encore un entraîneur étranger, parce qu'on savait que Luis Campos, lui, préférait peut-être placer un entraîneur portugais. Marc Ingla était parti à Barcelone, discuter avec Ravi Gracia. Et puis, Gérard Lopez, vu l'urgence de la situation, parce que là c'était plus question de beau jeu, de finir cinquième, c'est surtout aujourd'hui, c'est de sauver le club sportivement. L'aspect économique on l'abordera après, mais il fallait quelqu'un qui connaisse bien la Ligue 1, et il s'est un peu porté candidat hein, puisqu'il était passé dans une émission bien connue sur Canal.
Et d'ailleurs je trouve ça dans l'histoire, je trouve ça presque dingue. C'est bien là qu'on voit à quel point dans nos clubs on est encore à réagir à la petite semaine, au coup. Et là vraiment qu'on comprenne quand même, moi je dirais, c'est pas du tout contre Galtier quoi. Mais le mec est invité sur un plateau de télé. Il dit je suis disponible, ça m'intéresse. Et les mecs, oh le mec, ouais, il ça, est dispo, machin. Et lui il monte pas.
Non mais les contacts.
Et là c'est un choix de Gérard Lopez. Hein.
On sait que ça a
oui,
quand
on
même
sait,
un
ça
peu,
a peut-être accéléré les choses. T'es dirigeant d'un club, tu discutes avec un gars, le gars
il
va sur un plateau télé, dit, moi ça m'intéresse, bah forcément
non, mais,
ça peut non, te, mais
là,
ça
y avait,
peut t'aider.
De toute façon, il y avait urgence et je pense que ce qu'a décrit Jean et la réalité à un moment, l'urgence sportive fait que effectivement c'était, fallait pas aller se tenter sur, du bizarre quoi.
Allez, mais les dirigeants étaient perdus là. L'histoire Bielsa terminée, ils étaient sûrs de leur projet et là ils se sont retrouvés complètement perdus, paumés. Avec un effectif qui était aussi un peu perdu. Donc dans l'urgence, elle va prendre quelqu'un qui a quand même fait du bon boulot à Saint-Etienne et qui connaît bien les rouages de la Ligue 1 avec l'objectif prioritaire de sauver.
De Lille, quoi. C'est, ça aussi, c'était important.
Oui, il connaît la maison, mais c'est vieux.
Qu'est-ce qu'il est devenu Patrick Collot, Gibault ?
Il s'occupe de la réserve.
Ah bon.
Voilà, Patrick Collot s'occupe de la réserve. À un moment, il y avait un bruit comme quoi il pourrait revenir. On avait aussi évoqué Franck Passy, mais c'était important. Et là, ce qui est important aussi, c'est ce qui s'est passé lors du mercato, parce que vous savez que Lille est interdit de recrutement. Il fallait trouver 25 millions d'euros pour rassurer la DNCG, parce qu'on parlait de pourquoi pas d'une descente à titre conservatoire, une descente administrative. Donc urgence de trouver de l'argent. Il y a eu l'épisode Terrier qui a permis de ramener de l'argent, c'est-à-dire 11 millions d'euros puisqu'il a été transféré à Strasbourg avec un bonus. De 4, donc ça,
Lyon,
ça a atténué un petit peu.
À Lyon et à Lyon, ouais. À Strasbourg.
Voilà. Et donc, Christophe Galtier il veut pas le dire clairement, mais j'en suis quasi sûr, c'est qu'il a dû dire à Gérard Lopez, si je perds un, voire deux joueurs, on parle surtout d'Amadou, hein, qui a failli partir en Angleterre dans les dernières heures du mercato, il a dû dire, c'est certain, on va dans le mur. Et ils ont eu de la chance quelque part, parce qu'en étant interdit de recruter, ils ont un joueur en plus, et là aussi le scénario c'est un truc de dingue, c'est là où on voit que c'est le bazar complètement au LOSC. Tu prêtes Lebo Motiba, un attaquant sud-africain, à Valenciennes, tu veux le récupérer, tu lui proposes de multiplier son salaire par 5 et surtout tu donnes de l'argent à Valenciennes entre 500 000 et 1 million d'euros pour récupérer un joueur qui t'appartient. Ça, si c'est pas un
il était pas content d'ailleurs, Christophe Galtier, en conf de presse. Il a expliqué, nous on a aidé un club qui était en difficulté, au moment où nous on l'a été, on nous l'a pas rendu. C'est ce qu'a expliqué Christophe Galtier en conf de presse.
Alors après, on peut se mettre du côté de Valenciennes, ouais, qui avait ce joueur depuis la saison dernière, prêté deux fois, meilleur buteur du club. Valenciennes n'est pas non plus en grande forme en championnat de Ligue 2.
Voilà,
et puis, voilà. C'est incroyable, c'est unique dans l'histoire du foot français, que tu prêtes un joueur, que t'as besoin de le récupérer et tu donnes de l'argent pour le récupérer, ça.
Oui, c'est quand même incroyable. C'est surtout une situation totalement chaotique et.
Voilà, c'est ça. Non, mais le scénario est fou. Le scénario.
Gibault,
c'est révélateur du flou artistique qu'il y a dans ce club au niveau financier, quoi.
Gibault, là où ça a été très compliqué aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire revenir d'autres joueurs de prêt puisqu'ils pouvaient pas recruter, tu l'as rappelé. Alors, ils ont essayé Cheka, ils ont essayé Eder notamment, sauf que les clubs ont pas voulu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont
voulu avoir Madou. Alors, pour Cheka, ça a été clair, le président Olivier Delcourt était ferme depuis le début, puis il a pas cédé. Et puis dans un autre temps, et derrière il y avait des discussions, mais comme il a une option d'achat obligatoire de 4 millions d'euros à la fin de saison, il y avait le risque aussi de perdre de l'argent qui va tomber d'ici juin. Donc c'est vrai que, et puis en plus le club où il est, le Lokomotiv Moscou, est leader, peut-être la Ligue des Champions pour lui la saison prochaine, que de venir dans une galère.
Lui n'était pas contre le fait de revenir.
Oui, mais en plus est-ce qu'il va faire le mondial, Nico, t'es peut-être mieux placé que moi, c'est peut-être mieux pour lui d'être à Lokomotiv Moscou que d'être à Lille.
Le problème, c'est qu'il est dans une équipe qui tourne et il a été pas mal blessé. Il est pas forcément, il joue pas forcément tout le temps. Donc, il veut, lui, c'est jouer, justement.
Non, mais quand tu repasses à ce club de Lille, de laisser partir deux joueurs comme Cheka et Terrier, alors que les mecs sont quand même deux très bons joueurs qui, en plus, ont eu des super points à Dijon et à Strasbourg, c'est que tu t'es aussi, là aussi, trompé. Ça fait beaucoup de choses où le club se trompe, quoi.
Oui, bah de toute façon le aussi ce qui est c'est la construction de l'effectif qui est un peu bizarre, parce que tu as qu'un seul véritable attaquant de pointe, c'est Ezequiel Ponce, en plus qui est prêté par la Roma, donc tu étais même pas sûr de le garder. T'avais Terrier qui correspond totalement au profil du projet, c'est-à-dire un jeune en devenir, et donc tu le prêtes. Ça c'est un truc qui nous a un petit peu étonné. Il y a eu le Loft avec tous ces joueurs, ça t'a coûté 10 millions d'euros. Et on comprend pas non plus comment on peut en arriver là. Sur l'année 2017, il y a eu 20 millions d'euros dépensés en transfert en janvier l'année dernière, 70 l'été dernier. Et si on fait le bilan de tous les joueurs qui ont été recrutés, sincèrement, citez-moi deux ou trois joueurs où vous dites ce sont des cracks cette saison.
Et qui ont une valeur marchande, c'est ça le problème.
Voilà, Thiago Mendes c'est pas mal, mais en ce moment il est en train de plonger. Junior Alonso qui est l'un des plus anciens.
Il n'y a pas un contexte favorable à l'épanouissement.
C'est un plus.
Des joueurs qui à mon avis quand même, pour certains, doivent pouvoir devenir bons, mais le problème, on en oublie presque leur qualité.
Là, tu la vois pas, le
contexte
qualité.
Délicat. Tout a été misé à la va-vite sur... une sorte de one shot, un all-in au poker, quoi. Mmh. Tu vois, c'est,
exactement.
Allez, on mise tout sur, j'en sais rien, moi, un top 5 à Noël. On fait deux, trois premières ventes Bielsa. Dès le mois de janvier.
Tout sur Bielsa en plus.
Ouais, parce qu'il a la capacité, tu vois, à faire. Mais on quand ça vu, marche hein. pas.
Ça marche pas du tout.
Tout s'écroule, quoi.
Puisqu'on évoque le volet sportif du côté de Lille, il y a Jérôme Thomas qui vous a préparé une petite infographie sympa. Ce sont les trois prochains matchs du LOSC. Alors, on le disait, demain, il y a un match à domicile face au Paris Saint-Germain. Il y a un déplacement à Nantes. Il y a un autre match à domicile, mais face à l'Olympique Lyonnais. Là aussi, c'est gros calendrier à venir pour le LOSC, hein, Gibourg.
Bah, tu peux te retrouver largué parce que tu peux te retrouver avec zéro point. Parce que, sincèrement, en regardant les prestations du LOSC depuis le début d'année,
sportivement, Gattier, ça n'a pas changé. Hein.
Il reconnaît que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il imaginait. Parce que c'est vrai que sur le papier,
Pourquoi tu dis ça n'a rien changé ?
Sportivement, c'est pareil, c'est aussi mauvais qu'avant.
Bah, après, c'est toute proportion gardée, tout est relatif. Il a fait que 4 matchs de Ligue 1, il a 2 victoires.
C'est un petit peu mieux.
Mais il n'a même pas eu le début d'un choc psychologique, c'est ça, tu vois.
Il a 2 victoires, 2 défaites. Voilà, c'est con à dire, il a 50% de victoires, le gars.
Oui, il y a le dernier match avec but à la dernière minute, ça a aidé beaucoup.
C'est ce qui va sauver jusqu'à la fin de saison.
Globalement, dans le jeu, c'est quand même, ça fait peur parce que contre Strasbourg, franchement, tu t'en sors la dernière minute. Là, tu vas affronter le Paris Saint-Germain, Nantes et Lyon. Tu peux te retrouver avec zéro point et te faire larguer.
Tu peux.
c'est ça le gros danger, et c'est pour ça que Christophe Galtier a bien insisté pour garder son effectif intact et récupérer Motiba dans des conditions comme on l'a dit tout à l'heure, parce que il peut pas se permettre d'avoir 2 ou 3 blessés. Parce que c'est vraiment trop juste, et il y a des joueurs qui ont pas le niveau pour jouer en Ligue 1.
Accueillons Pierre, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir.
Salut Pierre.
Alors Pierre, on est en train de faire la situation, l'état des lieux du LOSC. On va aborder l'aspect financier dans quelques instants, parce qu'il y a eu pas mal d'échanges entre Marcelo Bielsa, son avocat, et les dirigeants du LOSC également. On est avec Jean Baumel, Daniel Riolo, Ali Benarbia dans l'after. Comment tu la juges, toi, cette situation, Lille? Est-ce que tu es un peu plus rassuré, notamment depuis que Christophe Galtier est entraîneur de l'équipe?
Rassuré, non. Et j'ai l'impression que à Lille, on cherche un coupable. En fait, on cherche le bon coupable pour dire, bah tiens, c'est de sa faute parce que vous pensez, c'est le pourquoi.
Et comme
comment,
ça permettra à tout le monde d'être plus tranquille.
Il y en a beaucoup de coupables.
Et là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, je me permets de prendre 2 minutes. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis totalement contre d'avoir licencié Marcelo Bielsa parce que c'est un entraîneur qui a une réputation dans le monde du football, et c'est pas anodin que des mecs comme Guardiola disent que c'est un grand homme. C'est un philosophe du foot, etc. Et à Lille, on se permet de le critiquer. Je me souviens que Luis Campos était venu pour défendre les intérêts de Marcelo Bielsa sur RMC il y a quelques mois de ça, il me semble. Je suis persuadé que. Je suis persuadé
et en off,
que.
Il disait pas la même chose que devant le micro.
Je suis persuadé que Campos est venu juste faire de la com, mais que derrière, il a jamais voulu travailler avec Marcelo Bielsa. Et à partir du moment où Bielsa voulait des joueurs que Campos ne voulait pas et que Campos voulait des joueurs que Marcelo voulait, ça peut pas fonctionner. Donc tu te retrouves avec un
mismatch. Ça n'a jamais été vraiment le problème, je te coupe Pierre, mais en gros, et Marcelo Bielsa l'a bien expliqué, même au moment de partir d'ailleurs, il avait des profils de joueurs qu'il voulait, Campos le ramenait des joueurs avec le profil, et Bielsa choisissait dans la liste. Ça n'a jamais été vraiment ça le problème, c'est pas les joueurs le souci.
Mais après,
ça a été la relation entre les deux.
Comment,
la relation était pourrie, l'assemblage des joueurs n'a pas marché, Bielsa s'est planté dans la gestion. Là où il s'est le plus planté, c'est même pas tant sur comment mettre l'équipe, à qui on a vu à un moment un début de style qui n'a pas fonctionné, c'est dans la gestion humaine. Et ça, Jean, je pense, tu sais, c'est
l'autogestion notamment.
Mais ça, le problème, c'est que, alors, c'est un défaut aujourd'hui, hein, je pense qu'un entraîneur ne peut plus fonctionner comme ça. Mais Emery a également un peu cette limite quelque part. Quand il dit.
Le management, tu veux dire?
Voilà, quand il dit, moi, je ne m'occupe que du terrain. Je veux qu'il y ait un directeur sportif qui gère tous les à côté, ça les emmerde, le mec qui arrive en retard, le mec, moi, le groupe qu'on me donne, si un mec est sanctionné par le directeur sportif parce que le gars est en retard, ça le regarde lui. Moi, je veux pas me mêler de ça. Je comprends l'idée,
mais je sais pas
si aujourd'hui.
Bah c'est là où l'idée du philosophe elle a ses limites.
Alors attends.
Non, pour avoir l'aval des joueurs, tu dois.
Oui, il y a le management, il y a le charisme,
tu l'as pas. Maintenant, si tout est calé dès le départ et que le directeur sportif et l'entraîneur fonctionnent comme ça, et à Séville, par exemple, Emery et Monchi fonctionnaient très bien comme ça. Sauf que là, Enrique, il est arrivé. Déjà, au départ, il n'est pas complètement fan d'Emery. Bon, je dévie sur ça, mais c'est pour donner l'exemple. Et c'est la même chose à Lille. Il n'y a pas une confiance absolument aveugle de Campos envers Bielsa. Bielsa s'occupe pas de tout ce qui est le mec qui arrive en retard, le mec qui est trop sorti la nuit, qui s'est endormi au petit-déj, machin. Et il se dit, bon, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Et non, personne ne s'occupe de ça. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. C'est bien, ça va bien au-delà de l'assemblage de joueurs qui a pas marché, de la tactique qui a pas fonctionné. Et c'est certainement une limite aujourd'hui pour un entraîneur. Pour Bielsa, ça va peut-être être une limite pour Emery. Soit tu le définis clairement au départ et ça peut fonctionner avec le directeur sportif qui gère tout et l'entraîneur le terrain. Mais en fait, aujourd'hui, je vois pas tellement d'exemples de situations comme ça. Tu vois, toi, un club qui marcherait exactement comme ça, c'est-à-dire avec un directeur sportif qui gère vraiment tout le management humain et le coach qui est uniquement terrain.
Pas du tout.
Je vois pas. Je...
De toute façon, terrain, ça n'existe pas. Que terrain, un coach qui fait que terrain, ça n'existe pas. Il doit s'occuper de tout ce qui est, quand on dit sportif.
Oui, mais logiquement, on est d'accord que ça pourrait, dans l'idée, un manager, un entraîneur, le mec terrain. Mais effectivement,
il faudrait
qu'ils soient main dans la main.
Ils peuvent pas.
L'aspect humain a trop d'importance aujourd'hui. La psychologie du joueur, le qu'est-ce que tu fais à côté, comment tu gères.
T'as même pas de relais sur le terrain.
Ils sont dans le loft. Les cadres, ils étaient dans le loft.
Justement, puisque Daniel disait à l'instant, c'est vrai que ça va au-delà de ça encore, les problèmes à Lille. Il y a également tous les problèmes financiers. Il y a notamment cette passe d'armes entre Bielsa, ses avocats et les avocats du club. Alors aujourd'hui, ils s'en sont donnés à cœur joie par communiqué de presse interposé. Hein.
Oui, suite à l'article dans l'équipe.
Maître Brouza adore les communiqués.
Qui soulève surtout le deuxième contrat de Marcelo Bielsa qui était caché. Hein. Ça, on avait aussi l'information à l'époque. Et donc on a eu bien sûr plus de détails concernant les avantages de Marcelo Bielsa, et donc l'équipe révèle qu'on était plus sur 15 millions d'euros, que la somme a priori serait plutôt vers 18. Bon, ça change pas énormément de choses, mais en tout cas ce qui est embêtant pour lui, c'est qu'il va falloir payer tôt ou tard, puisque normalement il ne peut pas être licencié pour faute grave, et ils essaient de trouver une solution pour justement s'en sortir du côté du LOSC.
Aussi, ça les met dans la merde tellement financièrement qu'à un moment, ça tu devais l'anticiper.
Mais
n'importe quel mec qui démarre une saison avec un coach, tu dois anticiper que ça peut capoter.
On dit que chacun son travail.
Surtout avec Bielsa,
tu dois anticiper que ça peut capoter.
Mais Daniel, ce que tu sais pas, c'est obligé que ça marche avec Bielsa.
Mais tu peux pas. Mais pour eux, même avec.
Mais c'est des nouveaux dirigeants.
Tu sais très bien que ça peut capoter dans le foot.
Gérard Lopez n'avait pas de grand club. Il avait juste un club du Luxembourg. Il se retrouve pas dans un grand club. Avec un club avec...
Il nomme des personnes pour justement gérer.
Mais ça fait rien.
Pourquoi ça fait rien?
Ces personnes n'y étaient pas, elles viennent d'arriver. Il n'y a pas eu de continuation du club.
Il nomme des mecs et sans être sûr.
Merci Pierre, supporter du LOSC qui nous a appelé. Merci Gibo pour ces indications.
Et c'est pas fini là, l'aventure continue parce qu'on aura encore des suites forcément avec l'aspect financier. Et puis bon, on va surtout s'attacher au niveau sportif maintenant.
On a plusieurs séries, plusieurs épisodes jusqu'à la fin de saison.
Je pense que la passage devant la DNCG en avril et mai prochain va être intéressante à suivre.
Merci Gibo, bonne soirée à tous. Demain 17h, donc le match entre le Paris Saint-Germain et Lille. Quelques petites infos également. Alors sachez que dans le groupe du Paris Saint-Germain, il y a Neymar et Thiago Silva qui étaient incertains. Lassana Diarra est là également, tout comme Daniel Alves qui revient de suspension. Mbappé lui est suspendu. Draxler est touché au dos. Rabiot.
Est-ce qu'on va arriver
également
au délire absolu de Diarra qui
la compo probable du PSG, vous la découvrez sur BFM
5 minutes par-ci par-là et titulaire à Bernabeu.
Kimpembe, Thiago Silva, Meunier, Rosselso, pourquoi qu'est-ce que t'as fait Jérôme Thomas?
C'est le match de Rennes, ça. Il s'est trompé. C'est contre Rennes, ça.
Il y a un problème.
Non, mais pour en revenir une chose, Daniel, est-ce qu'on va pas encore, avant le match du Real, avoir des joueurs encore comme mal au dos, qui ont l'adducteur qui siffle? Moi, c'est ce que je me dis, parce qu'à chaque fois, on a 9 points d'avance ou 10 points d'avance. Normalement, on est censé gérer les joueurs pour qu'ils arrivent à 100%. Est-ce qu'on va avoir encore des blessés suspendus, hein?
Merci, les gars. Demain, 17h, Paris Saint-Germain, Lille.
On n'a pas terminé. Et on se revoit dimanche, mon petit Nico.
Et on se revoit demain pour l'after. Merci à toutes et à tous.
Ciao.
Bisous, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.